La chemise arrive.
Info, invité, reportage
sur Radio Centrafrique.
À Saint-Paul-des-Fonds, les habitants se mobilisent autour d'un bien commun essentiel, l'eau. La station d'épuration du Viala du Pas-de-Jau, en cours de construction, rejettera en effet ses eaux usées dans l'une des sources de ce village. Anne Koum est présidente de l'association Vivre à Saint-Paul-des-Fonds.
Alors Saint-Paul-des-Fonds, ça vient de Fontaine. Donc c'est un village qui possède effectivement beaucoup de sources. Le village se situe dans un cirque au pied du Larzac et on a deux ruisseaux qui sont là annuellement et puis après on a beaucoup de sources qui ressortent en période de pluie. Alors il y a une source notamment qui est menacée, qui en fait amène dans un des ruisseaux de Saint-Paul, c'est-à-dire le ruisseau du Roubierou. Il y a à Saint-Paul la grotte de la Cabane, qui est une ancienne cave bâtarde, qui est une grotte qui est très connue des spéléologues. Et en fait, au-dessus de Saint-Paul, il y a le village du Viala du Pas-de-Jau. Et le village du Viala du Pas-de-Jau est en train de construire une troisième station d'épuration. Les deux premières étant obsolètes. C'est très bien qu'ils fassent une station d'épuration. Là-dessus, on est très contents. Le problème, c'est qu'en fait, leurs rejets vont atterrir directement dans un trou qui arrive dans la nappe phréatique qui alimente la cabane et qui ressort sur le ruisseau du Roubierou à Saint-Paul-des-Fonds.
Pour éviter tout ça, une solution est envisageable. Problème, des coûts supplémentaires qui ne sont pas prévus au budget.
Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'en fait, ils trouvent une solution alternative qui serait, par exemple, de rallonger les tuyaux et de ramener en fait ces rejets en bas de falaise, soit dans un ruisseau pérenne, soit alors en faisant une mare avec un trop-plein ou quelque chose. Enfin ça, ils ont des ingénieurs qui peuvent se pencher sur la question. Nous, on n'est que des habitants et ne serait-ce que pour nous annoncer un coût, il faudrait qu'il y ait un devis de fait par une société, et ça demande de l'argent, rien que, et trop d'argent pour nous, petite association, et en plus, eux ne font ça que si c'est des autorités compétentes qui a été demandé, une mairie, un préfet, quelque chose. Forcément, la mairie du Viala a bouclé son budget, elle n'a pas envie de voilà. Et la mairie, notre mairie à nous, donc la mairie de Saint-Jean et Saint-Paul, à partir du moment où ils ont été soi-disant mis devant le fait accompli, que la station est aux normes, ils n'ont rien à dire.
Saint-Paul-des-Fonds, un village situé sur le parc naturel régional des Grands Causses, labellisé Natura 2000, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout plein de médailles pour développer l'attrait du tourisme vert et pour les élus et les gestionnaires de nos territoires que l'association Vivre à Saint-Paul a rencontré, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Alors le parc a réagi en nous disant que de toutes les façons, la station était aux normes et que donc il n'y avait aucun souci et que c'était chose courante que de rejeter des rejets de station dans des nappes phréatiques. À Millau notamment, c'est l'exemple qu'a pris M. Danneville, l'hydrogéologue du parc. À Millau, il y aurait 3 stations d'épuration qui se rejettent dans la nappe phréatique qui alimente l'eau de Millau. On nous a aussi dit que de toutes les façons, de l'eau, il y en avait sur le Larzac suffisamment et que si on polluait une source, c'était pas grave, il y en aurait d'autres. Alors les élus, ils ont un peu du mal à se mouiller, si je peux dire. C'est-à-dire que je pense que dans le fond, ils nous soutiennent, ils sont d'accord avec nous, mais en même temps, c'est un problème de mairie, c'est un problème de subvention. Faut être franc, c'est une histoire de gros sous. Là, je pense que la mairie du Viala ne serait pas contre rallonger les tuyaux, mais ça ne fait pas partie de son budget primaire, de son premier. Donc forcément, ça demande d'autres subventions, d'autres argent. Et la station est quand même prévue d'être finie en mars.
Anecdote qui fait sourire ou pas, la société qui met en œuvre la station d'épuration du Viala du Pas-de-Jau fabrique aussi des dépollueurs d'eau. La boucle est bouclée. L'association Vivre à Saint-Paul vous invite à une balade le long du ruisseau du Roubierou. Rendez-vous samedi à 14h à l'ancienne école de Saint-Paul. Si le temps est maussade, un diaporama remplacera la balade.
Un site internet existe, très bien fait, vous trouverez des vidéos ainsi que plein d'informations complémentaires, c'est www.saintpauldesfonds.com. Vous l'aurez compris, un projet de station d'épuration est donc en cours de construction au Viala du Pas de Jau. L'idée serait de rejeter par la suite les eaux usées dans les ruisseaux souterrains qui alimentent la grotte de la Cabane. Cette grotte est l'une des plus belles des Grands Causses et sa réputation s'étend même à toute la France. Henri Salvert est hydrogéologue et président du Spéléoclub de Sainte-Afrique. Il répond aux questions d'Audrey Barat.
D'abord, en tant qu'hydrogéologue, j'ai été hydrogéologue agréé de l'Aveyron pendant 30 ans. En tant qu'hydrogéologue, je m'oppose à tout rejet de matières polluantes dans les cavités des massifs calcaires. Alors je dis je m'oppose, c'est pas moi qui ai fait la loi. Il y a une loi qui est la loi du 12 février 1902 qui dit qu'il est interdit de rejeter dans les gouffres du Causse toute matière liquide ou solide susceptible d'entraîner la pollution des eaux souterraines. Ensuite, ce décret a été repris par la loi sur l'eau. Ça, c'est l'avis de l'hydrogéologue. Mais là, j'ai aucun rôle officiel. En tant que spéléologue, cette grotte de la Cabane est la grotte la plus importante dans les Grands Causses, importante par la connaissance que l'on a. Elle est connue en France, elle est connue à l'étranger. C'est une grotte magnifique avec un ruisseau souterrain unique. Elle fait l'objet d'études depuis des années avec le Spéléoclub de Sainte-Afrique et le Spéléoclub des Grands Causses pour le nommer. Et nous avons travaillé très longtemps sur ces cavités. Nous connaissons parfaitement le réseau hydrographique et ce réseau hydrographique souterrain alimente en eau la commune de Saint-Paul-des-Fonds. Ce qui veut dire que toute atteinte au ruisseau souterrain par une pollution venue de l'extérieur, même si elle vient d'une station d'épuration, on sait que les stations d'épuration fonctionnent au mieux à 50% et le plus souvent à 30% de leur efficacité. Ça veut donc dire que tout polluant rejeté à l'intérieur de cette eau va s'étendre à tout l'ensemble de la réserve en eau qui se situe dans le cirque de Saint-Paul-des-Fonds, qui, au passage, est classé Natura 2000.
Et est-ce que vous savez comment l'étude, j'imagine que les élus du Viala et du parc et la société qui fait cette station d'épuration a dû étudier le sujet. Est-ce
alors,
que vous savez
à ce sujet-là, je n'ai aucune idée. Simplement, ce qui m'a été transmis par l'association pour la protection des eaux de Saint-Paul-des-Fonds, mais je suppose que les gens qui ont commandé cette étude l'ont demandé à des gens compétents. Alors peut-être que ces gens compétents ont des données que moi je n'ai pas. Ça m'étonnerait que ce qui s'applique dans tout le reste de la France, le Languedoc-Roussillon, les Corses, partout, hein, soit inapplicable au Viala du Pas de Jau.
Alors, c'est quand même un problème, le rejet de ces eaux usées. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il y aurait une solution, d'après vous, qui serait moins préjudiciable?
Alors, on pourrait se poser la question que devenaient les eaux usées de la station d'épuration avant qu'on ait ce projet. Ça, c'est une autre question. Mais une autre façon de faire, c'est de prendre les eaux usées de la station d'épuration et de les rejeter soit au pied du Larzac, sur les marnes noires, ces fameux schistes noirs que l'on veut exploiter pour extraire le gaz de schiste, que vous connaissez, soit les rejeter au-dessus du Larzac, c'est-à-dire sur les bancs de lignite. Les lignites, c'est du charbon. Ce charbon se trouve entre le Viala du Pas de Jau et la Vialette. Ça, je suppose que les gens qui sont chargés de faire l'étude l'ont envisagé.
Vous pensez qu'il y a espoir d'essayer de changer le projet ou...
Eh bien, ce projet... a été soumis, c'est une installation classée. Elle a fatalement été soumise à l'assentiment des autorités administratives, c'est-à-dire de la préfecture et de la DDTM. DDTM, c'est l'ancien génie rural. D'autant plus que je suis à peu près certain, puisque moi je suis intervenu, je le fais ailleurs, je travaille encore, je suis à peu près certain qu'un hydrogéologue agréé a donné son avis là-dessus. On lui a demandé son avis. Et l'hydrogéologue agréé, on se connaît tous. Bon, et on connaît tous, on tient le même langage. Alors moi, je voudrais bien savoir quel est l'hydrogéologue agréé et quel est son avis là-dessus. Lui, il a un pouvoir décisif.
La grotte de la Cabane, c'est un peu la lourde des spéléologues du secteur. Ce qui est à souligner dans cette affaire, c'est que polluer les ruisseaux souterrains engendrera la mort des invertébrés qui y vivent, mais aussi celle de toute une biodiversité. Tout ceci est assez surréaliste puisqu'une loi française interdit de tels projets. Vous aurez bientôt des nouvelles de la suite de cette affaire car nous sommes sur la piste de l'hydrogéologue agréé qui a travaillé sur le dossier. En attendant, une récompense sera offerte à quiconque trouverait d'autres informations sur le sujet. Vous aurez par exemple le plaisir de venir boire un café dans les locaux de Radio Sainte-Afrique. Signé le 26 février 1996... Et entré en vigueur le 1er mars 2000, l'accord d'association entre le Maroc et l'Union européenne prévoit l'instauration progressive d'une zone de libre-échange industriel à l'horizon 2012 et une libéralisation progressive des échanges agricoles. Anne Lacouture, assistante parlementaire de José Bové, revient sur ce traité de libre-échange.
Il y a déjà des accords d'association. Là, c'était une renégociation d'une tranche de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Maroc. Donc, pour la première fois depuis l'application du traité de Lisbonne, le Parlement européen a son mot à dire sur l'application des traités de libre-échange. Préalablement, a été uniquement géré entre la Commission et les États partenaires. L'accord concernant plus particulièrement des produits agricoles et le commerce international, et José Bové faisant partie des deux commissions visées par l'accord, il a été chargé de la rédaction de l'avis du Parlement européen sur cet accord. Bien sûr, cet accord de libre-échange étant particulièrement néfaste et pour les petits producteurs marocains et pour les petits producteurs de l'Europe, du sud de l'Europe particulièrement, et du maraîchage, il a essayé de mener une bataille contre cet accord. Il a réussi à avoir l'appui de la plupart de toutes les organisations syndicales, sauf la filière majoritaire à la FNSEA. Et malgré cette union large de tous les syndicats, l'accord a été voté la semaine dernière.
Un accord voté la semaine dernière, donc malgré une très forte opposition syndicale. Vous vous doutez bien que des enjeux d'envergure se cachent derrière ce type de traité.
Alors l'accord, il entraîne des échanges de fruits et légumes, particulièrement depuis le Maroc vers chez nous. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet accord sur le Maroc, il n'est pas forcément intéressant pour l'Europe, et ça, l'Europe l'a très bien compris. Mais le Maroc, ce qui met dans la balance, et ce que met en balance le roi du Maroc, c'est que si cet accord n'avait pas été fait, le Maroc arrêtait de servir de frontière, arrêtait de faire le filtre à Ceuta et Melilla et laissait passer largement les Africains qui veulent remonter vers l'Europe. Voilà uniquement l'objectif de cet accord. Le Maroc aujourd'hui fait office de barrière, notamment à Ceuta et Melilla, pour le franchissement des Africains de l'Ouest et des Africains du Centre, qui remontent par le Maroc avant d'accéder à l'Union européenne. Et c'est un petit peu la première frontière, la première passerelle. Et donc ça, c'est assez confortable pour les pays du Nord qui ne veulent pas accueillir des gens d'Afrique. C'était un deal, c'était un échange, quoi. C'est sûr que c'est implicite, c'est pas dit dans le texte, mais on comprend très bien que l'enjeu de l'accord entre l'UE et le Maroc, il y avait ça qui était sous-jacent.
Des enjeux pas très réjouissants donc en termes de filtrage des populations africaines voulant atteindre les pays du Nord, mais les choses ne s'arrêtent pas là.
Ça concerne aussi les quotas de pêche et ça concerne aussi le Sahara occidental. En fait, le Sahara occidental, c'est un territoire qui est sur la liste des territoires à décoloniser par l'ONU. C'est un territoire qui a été colonisé par l'Espagne, qui est partie et s'est resté occupé par le Maroc. Et en fait, c'est le Sahara occidental qui conserve de nombreux droits de pêche au large de l'Atlantique, qui possède aussi les plus grosses réserves de phosphate du monde. Le phosphate servant à faire des engrais, et c'est là aussi que sont accaparés pas mal de terres et que sont exploitées les ressources naturelles au mépris de l'autodétermination du peuple sahraoui.
Anne Lacouture, assistante parlementaire de José Bové. Comble de ces marchés de grande ampleur, ce pays d'Afrique, donc le Maroc principalement musulman, il devient de plus en plus touristique. Dans le cas de ce traité de libre-échange, l'Europe va importer une quantité phénoménale de viande de porc pour les Occidentaux qui y habitent ou qui passent des vacances. On n'arrête pas le progrès. Pour conclure, n'oublions pas qu'un accord de libre-échange est souvent un jeu gagnant-gagnant pour les grandes entreprises multinationales et les financiers mondiaux, mais qui s'avère bien trop souvent perdant pour les peuples et les travailleurs de ces pays.